Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, nous n'avons pas vu le dernier Spielberg, on a fait l'impasse sur Marie-Madeleine, on a laissé de côté la grosse comédie qui tâche les dents, pipi et au lit, et la plus loufoque, Madame Hyde avec Isabelle Huppert, on a manqué Carnivore avec Leila Bekhti, et on a hésité à voir Cro-Blanc, mais pourtant, eh bien, on a l'impression qu'on n'a rien vu, mais il reste plein de films en salle depuis le 29 mars, Manu.
Et oui, je commencerai donc avec Pacific Rim Uprising.
Qui est sorti le 21, pour le coup.
Pour le coup, oui. Et puis The Rider de Chloé Zhao et Frost de Sharounaz Bartas.
Et moi, je vous parlerai de Le Collier Rouge. C'est le dernier film de Jean Becker. Et ça donnera eh bien, l'occasion de jouer un blind test sur la filmographie de ce réalisateur eh bien, qui a fait des films plutôt populaires. Donc, j'imagine que ce sera facile pour vous, chers auditeurs. Et puis, on écoutera aussi une interview, celle de Walid Matar, le réalisateur de Vendu du Nord, et on écoutera aussi son comédien Philippe Rebaud. Le nom vous dit peut-être rien, mais si on vous montrait sa photo avec ses moustaches et parfois ses lunettes, vous sauriez tout de suite de qui il s'agit, et ce sera l'occasion de parler de ce petit film. Mais on va prendre tout de suite des nouvelles, et bien des kaijus dans Cinérama.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Les kaijus. Ils vont se repointer. Et je serai pas coincée à attendre que quelqu'un vienne me sauver.
Réalisateur issu de la télévision, hein, producteur entre autres de Smallville, Spartacus et Daredevil, hein, Steven Duckknight succède donc à Guillermo del Toro pour raconter une fois de plus le conflit planétaire qui oppose les kaijus, créatures extraterrestres, aux Jaggers, robots géants pilotés par des humains. Alors dès les premières images, hein, quelque chose cloche dans cette suite inutile d'un point de vue rythmique et narratif. Alors si on n'est pas familier du genre, hein, ce qui est un peu mon cas, le décrochage est immédiat. Alors le flux ininterrompu de dialogues simultanément technique et débile, achève de rendre évident une intrigue qui, en la décortiquant un peu, est d'un simplisme vraiment évident du coup, mais elle reste enrobée d'une sacrée couche de pseudo-discours scientifiques hystériques. Alors, pour faire court, un jeune pilote, un Jack Pentecost, devenu une sorte de trafiquant délinquant, est le fils d'un homme célèbre, qu'on a vu dans le premier, ayant sacrifié sa vie pour sauver l'humanité des monstrueux kaiju. Il a abandonné l'entraînement depuis longtemps, mais il se fait arrêter et obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père lorsqu'une menace se répand dans le monde liée à la folie, alors on ne comprend pas trop, d'un scientifique dont le cerveau a été contaminé. Il est aidé pour cela d'Amara, une jeune hackeuse de 15 ans, de son rival Lambert et d'un groupe d'apprentis pilotes. Oui, bon, tout ça n'est pas très limpide, mais le récit part en fait dans tous les sens, faute en partie à une mise en scène abrutissante, très peu lisible, alors cherchant surtout à en mettre plein la vue au détriment de la moindre cohérence. Alors surtout, le film vise un public exclusivement geek, alors se moquant littéralement du film de Guillermo del Toro et surtout de l'héritage historique japonais. Alors, ultra bavard, plombé par des répliques censées être drôles tombant systématiquement à plat et par une horde de comédiens grimaçants, Pacific Rim Uprising fait passer le précédent pour un chef-d'œuvre d'élégance et d'intelligence, pourtant décevant, bien que sincère et fidèle à l'univers de base.
Nous sommes nés dans un monde en guerre. Entre les monstres qui détruisaient nos villes et les monstres que nous avions créés pour les arrêter, nous pensions avoir fait assez de sacrifices. Mais la guerre, qui nous semblait pourtant terminée, ne fait que commencer. Et la seule chose qui se dresse face à l'apocalypse, c'est nous.
Oui, en écoutant la bande-annonce, on se dit que l'heure est grave. Bon. Le déploiement d'effets spéciaux à numérique est certes impressionnant, hein, surtout dans la dernière demi-heure, plutôt amusante, mais dénuée d'enjeux, bah, hormis celui de détruire les monstres pouvant mettre fin à l'humanité. Mais il faut une sacrée volonté pour suivre une histoire, alors pas plus compliquée qu'une autre comme ça, mais très très mal racontée. Les personnages sont des coquilles vides, de purs clichés ambulants, à commencer par la jeune surdouée qu'on a envie de claquer dès sa première apparition. Les scènes d'action s'enchaînent de manière ininterrompue, donnant au film l'illusion l'illusion d'un rythme soutenu dont il est totalement dépourvu. Alors le rythme, ce n'est pas seulement d'enchaîner des morceaux de bravoure avec des plans saccadés et une musique tonitruante. Alors quand est-ce que le cinéma hollywoodien va-t-il comprendre que cette surenchère n'aboutit à rien, qu'elle se tire une balle dans le pied pour délivrer des œuvres de plus en plus infantilisantes et insupportables, des bouillies visuelles visant uniquement à abrutir les masses. Et là, on atteint une forme d'apothéose que déjà j'avais déjà ressentie en voyant Transformers 5, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire, ou alors c'est moi qui vieillis de plus en plus.
Je sais pas, mais déjà comparé à Transformers 5, effectivement, voilà, enfin tu
c'est encore plus nul, hein, c'est encore plus nul.
On va changer alors là carrément d'univers, on va passer du blockbuster au film franco-tunisien, c'est l'interview de Cinérama.
C'est un état d'esprit.
Cinérama, chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Et on va parler de Vent du Nord, de Walid Matar. Nous sommes dans le nord de la France, l'usine d'Hervé est délocalisée. Mais il n'a pas envie de se battre, hein. Juste prendre le petit pactole que lui vaut ses 30 ans d'ancienneté et d'arrêter pour faire autre chose. Sa passion, eh bien, c'est la pêche. Alors pourquoi pas revendre du poisson, ça va l'aider. D'autant que ça va lui permettre aussi de renouer un lien avec son fils et de se projeter dans la transmission. Alors on traverse ensuite la Méditerranée en Tunisie où l'usine d'Hervé a migré. Et à son poste, eh bien, on retrouve Fouad. Cet emploi lui permet d'avoir suffisamment d'argent pour payer des médicaments à sa mère. Et puis, eh bien, l'usine, c'est aussi le moyen de séduire la femme qu'il aime. Les deux destins, d'une certaine manière, vont se répondre. Alors, le parti pris du réalisateur Walid Matar est d'avoir conçu une intrigue sur un terrain de combat social, alors qui aurait pu être chaud, hein, mais de rien en faire, finalement. Puisque Hervé, lui, se résigne totalement à la délocalisation. Si bien que celle-ci n'est que le point de départ du film et ce qui va unir les personnages. Dans le Nord, c'est Hervé, interprété par Philippe Rebaud, qui certes a perdu son travail, mais bien entouré par sa femme Corinne Massiero et son fils. Et à Tunis, eh bien, c'est un jeune, avec les horizons eh bien, d'un jeune Tunisien, c'est-à-dire avec à peu près rien qui fonctionne et un ascenseur social en panne. Alors, un refuge, l'amour. Le film a été conçu pour être un aller-retour entre les deux pays et les situations. Deux villes de bord de mer, il y a Vimereux, que je ne connaissais pas, hein, dans le Nord Pas-de-Calais, et puis Tunis. Avec des points communs comme le café, le besoin d'argent ou le rapport à la mer. Et deux mêmes envies, être heureux, entrevoir les possibles. Entouré par sa famille, Hervé peut toucher hein, cet état et c'est un peu plus compliqué pour Fouad là-bas en Tunisie. Vent du Nord est un film simple qui avance sur le ton de la comédie, surtout dans la partie nord, grâce à une famille ch'ti qui ne joue pas à l'être. Il y a beaucoup de gouailles, voilà, ça c'est clair. Et le couple Philippe Rebaud et Corinne Massiero, qui avait interprété Louise Wimmer, fonctionne parfaitement et insuffle juste ce qu'il faut de réalisme pour se laisser porter par cette fable sociale qui n'a pas choisi le misérabilisme. On écoute le réalisateur tunisien Walid Matar et son comédien français, l'excellent Philippe Rebaud, habitué des seconds rôles qui là trouvent eh bien, un premier rôle.
Nous souhaitons nous entretenir avec vous des modalités de votre départ.
L'usine va fermer ou pas ? T'es au courant ?
Non.
C'est décidé. L'usine va être délocalisée.
On savait très bien que le sujet était assez dur. Donc on a fait très attention pour être très proche des personnages, déjà. D'avoir de l'humour de situation et de l'absurdité un peu de ce système en lui-même de délocalisation. Aussi dans la mise en scène, dans le casting surtout, avoir des choix sur des comédiens qui ont déjà de la légèreté, qui ont déjà de la naïveté, qui sont déjà très très touchants, pour que la délocalisation soit vraiment l'atmosphère de ce film et pas réellement le sujet qu'on traite dans le côté très dur, dans le côté chômage, ce que engendre la délocalisation de cette usine. C'est-à-dire d'être plus concentré sur l'histoire père-fils, une histoire d'amour, des choses très humaines et accessibles comme ça.
Vous pensez simplement à faire votre boulot en obéissant aux ordres, sans vous poser de questions.
Ça va être des pauvres qui vont taper sur d'autres pauvres.
Ouais, je m'en fous, je retournerai pas à l'usine, d'accord ?
Bien sûr que si, il faut que tu te battes. Comment tu vas faire pour ton boulot ?
Ouais, j'ai ma petite idée.
Le fait que Hervé ne résiste pas, ne soit pas dans le combat, et qu'il y a une partie qui le soit, ça a été pour moi aussi pour nuancer, parce que dans le cinéma, on peut traiter dans la profondeur la différence qui arrive entre les ouvriers, par exemple, dans une usine, et être loin de cette image où c'est soit blanc, soit noir. C'est-à-dire, en général, on a des ouvriers contre un patron méchant, et ça se passe comme ça et très rapidement. Donc j'ai voulu vraiment nuancer ce personnage de Hervé. Après, donc, chacun est libre de prendre un choix, soit de résister, soit d'accepter son destin. Et Hervé, il y avait aussi cette idée en tête, qu'on a essayé de jouer en suspense, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais déjà, pour moi, il avait un un projet en tête qui va utiliser l'argent du licencement pour le faire.
Eh pas, c'est la dèche, là. Il n'y a plus de poisson.
Vous voyez pas que je suis en train de faire quelque chose, là? Toi, le poisson, elle, les chevaux. Eh, merde!
Non, mais il faut aller pêcher, là. Moi, j'ai avec toi.
Je peux pas, j'ai pas le droit. Il y a une autorisation que je peux pas avoir.
Tu fais chier! Même vendre un petit peu, c'est pas grave.
Oh non! 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 C'est clair? Bon.
Moi, je dis ça, je dis rien, mais si c'est une question d'âge, il y a que la faire, la formation, Vincent.
Vincent?
Bah
ouais. C'est la pépèche. Un CAP pêche. Mmh. Lui comme il est, n'importe quoi, enfin.
Comment ça, comme je suis?
Mais t'es un flemmard.
Mais non, il est flémard. Jeune, moi. Il est jeune, lui. Il y en a plein, des formations pour les jeunes. Ouais, il n'y a qu'à la faire, puis vous associez, puis voilà.
Je te dis, qu'il est flemmard. Et puis, est-ce que tu veux la faire, la formation pêche, toi?
Bah non, je me suis inscrit à l'armée, maintenant.
Ouais, je te tiens quand même qu'à l'armée, il faut se lever tôt, hein. Tu vois? Bon.
Eh ben, moi, je te dis qu'il est capable.
Il n'est pas capable.
Si, il est capable.
Il n'est pas capable.
Si, il l'est.
Il n'est pas capable.
Je te dis qu'il est capable.
Il n'est pas capable.
Il est capable.
Il n'est pas capable.
Il est capable.
Il n'est pas capable.
Vous me saoulez, là.
Je sais que c'est vieux.
Vous me saoulez.
Voilà. En réalité, je pensais que le personnage d'Hervé, là où il est intéressant, c'est qu'il a d'autres horizons. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il lutte pas tellement pour l'usine. C'est qu'en effet, ce que vient de dire Walid, c'est que le mec, il a la mer devant lui et que c'est ça sa vraie passion. Et que du coup, quelque part. Bah c'est ce qu'il sauve, voilà, même si c'est compliqué et tout, mais je me dis, le gars, il va pas se battre 107 ans, enfin, dans l'inconscient collectif, on sait bien, quand on commence à nous mettre des portes partout, le mec va pas combattre, en plus, seul, contre des administrations, des trucs comme ça, mais il n'empêche, il est porté par un truc, c'est il aime la pêche, il aime la mer, et il trouve en plus, avec vers la fin, ce truc avec son fils, dans la transmission, donc voilà, moi, je me dis, c'est un personnage qui s'en sort bien, enfin, c'est un type qui s'en sort bien, mais grâce à un truc, c'est sa passion. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de boulot.
Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux.
Moi, ce que je veux, c'est développer une gamme de produits en tout genre à base d'aloe vera.
Vous, monsieur?
Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson.
Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur.
C'est vraiment le brin pour l'emploi.
Il faut créer une SARL, hein, et vous avez besoin d'une formation. Hein.
Ce qui allège un peu ou ce qui fait du bien, c'est qu'il y a une véritable histoire d'amour, mais qui dit pas son nom. Enfin, c'est une famille qui s'aime. Quoi. Elle n'est jamais remise en question, cette famille. Je veux dire, Corinne, Véro, mon fils et tout ça. À part les frottements qu'on peut avoir dans là. Mais sinon, on sent bien que cette famille est indestructible. Quand il y a des emmerdes, tout le monde est là. Voilà, donc ça fait du bien, je pense. Ça parle d'amour.
Par contre, à votre âge, il n'y a pas de formation. Comment je fais? J'en sais rien.
Voilà, vous écoutiez Philippe Rebaud, le comédien, et Walid Matar, le réalisateur de Vent du Nord, un petit film modeste, mais plutôt réussi, et qui est dans les salles depuis le 28 mars. C'est aussi le cas d'un film qui s'intitule The Rider, et c'est l'occasion, Manu, de nous initier au rodéo.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Brady, cow-boy Lakota, descendant des Amérindiens, âgé d'une vingtaine d'années et monteur et dresseur de chevaux, il vient d'échapper de peu à la mort, victime d'un trauma crânien après s'être fait renverser et piétiner par un cheval en faisant du rodéo. Ce qui est réellement arrivé dans sa vie, puisque l'acteur non professionnel incarne quasiment son propre rôle. Alors une plaque de métal greffée sur son crâne après une opération l'oblige à repenser son existence. Il ne pourra peut-être plus jamais remonter sur un cheval. En pleine crise existentielle, il entame ce qu'on pourrait appeler une lente dépression. Ou alors une crise identitaire. Alors un sujet en or, sur fond de rêve américain, de fantasme ultime, celui de vivre de ses chevaux en pleine nature. Alors le fantôme du western est présent du début à la fin dans ce film indépendant réalisé par une jeune cinéaste chinoise exilée aux États-Unis, Chloé Zhao, auteur d'un premier long métrage très remarqué, Les chansons que mes frères m'ont racontées. Alors mais malgré ses évidentes qualités, The Rider représente un prototype agaçant, celui du cinéma d'auteur américain le plus consensuel possible, parfait pour, je dirais, des festivals de type Sundance, au point d'en devenir, alors non pas déplaisant, mais prévisible de la première à la dernière image. On n'entend absolument pas cette bande-son dans le film.
Non, mais là, il y avait des petites ambiances alors très subtiles de Rodéo.
C'est parce que ça paraît violent là, oui. Par rapport à l'ambiance du film un peu éthérée. Alors, les premières séquences s'imbaignent dans une lumière ocre magnifique. Hein. Chloé Zhao possède un sens du cadre indéniable. C'est insufflé une atmosphère à la fois pesante et envoûtante. Mais en contrepoint, on a l'impression de connaître par cœur ce savoir-faire formel sous influence malique, avec sa petite musique mélancolique néo-folk, sa caméra flottante, ses ouvertures vers les levées, puis les couchers de soleil, ces gros plans sur les visages fermés. Alors articuler une forme documentaire renforcée par le fait que les acteurs principaux, pas seulement l'acteur principal, sont tous des non-professionnels, ils incarnent quasiment tous leur propre rôle. Et puis un souffle romanesque est une belle idée de cinéma, mais peu exploitée à l'écran. Tout est visible, appuyé, les intentions sont présentes, mais la réalisatrice, elle étaye son propos par de longs plans insistants, les silences pesants, sursignifiants. Alors voilà, The Rider est une quête initiatique sur le renoncement, le récit douloureux d'un deuil, rupture pour le personnage principal avec sa passion, tout ce qu'il a construit et ce pourquoi il vit. Alors de bonnes idées se dégagent, hein, liées davantage à l'authenticité de la situation qu'à un vrai travail d'écriture cinématographique. La sœur de Brady atteinte d'un handicap mental donne lieu à des moments très touchants, inscrits dans la réalité. En revanche, les rapports entre Brady et les chevaux n'aboutissent à aucune intensité, profondeur. La réflexion sur la nature et la culture est à peine esquissée, tout comme le fait qu'ils soient amérindiens, c'est-à-dire l'interrogation sur la culture, sur ses origines, ben, tout ça passe un peu à la trappe. Alors on reste un peu à la surface des choses, on se portrait d'un homme face à son destin. En dépit de l'authenticité du récit, The Rider déçoit par sa volonté de plaire à tout prix, de s'enfoncer dans une joliesse filmique un peu énervante. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça plein de fois, malgré je trouve un sujet quand même très intéressant.
Eh bien, nous allons maintenant entamer cette partie de l'émission où il est question de jouer. C'est le blind test, un blind test spécial Jean Becker, puisque je vais vous parler de Le Collier Rouge.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Crevons l'abcès tout de suite, hein, sur un thème qui pourrait s'en approcher. Le Collier Rouge n'a pas la force des Sentiers de la Gloire du Kubrick, mais on s'en serait douté. Alors ici, pour parler de la guerre de 14-18, de la bravoure, de l'honneur et finalement du mépris des hauts gradés pour leurs hommes, Jean Becker a pris le parti d'adapter Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin. Mais à presque 80 ans, le réalisateur de L'été meurtrier semble manquer d'audace. Hein. Je pense qu'on tient d'ailleurs avec l'affiche du film, la pire affiche du cinéma français de 2018. On y voit François Cluzet en uniforme bleu horizon de l'époque, qui fait presque des mamours un bosseron dans un pré. Choix d'autant plus étrange qu'on ne verra jamais cette scène dans le film. Et entre Belle et Sébastien et la sortie de Cro-Blanc, moi je trouve que c'est trop. Hein. Cela dit, bon, c'est vrai que le chien et le commandant ont leur importance dans ce film qui questionne la manière dont on a traité les hommes de la guerre 14-18 en les envoyant à la boucherie.
Avant la guerre, j'étais un jeune militaire de carrière idéaliste. L'honneur, la tradition, la patrie, j'y croyais à tout ça. Pourquoi il aboie comme ça, ce chien?
C'est le chien du détenu, mon commandant. Allez, debout, Barlac!
Je suis le chef d'escadron Lantier du Grèze, chargé de juger votre affaire. Je comprends pas qu'un type qui a reçu la Légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qu'il vous a reproché aujourd'hui. J'imagine que vous étiez ivre.
J'étais pas saoul et je regrette rien. Et personne m'obligera à m'excuser.
Alors, on entend François Cluzet, le commandant, et puis Nicolas Duvauchel qui joue le prisonnier. Nous sommes en 1919. Ouf, la guerre est finie, mais pas pour tout le monde. Le Collier Rouge met aux prises donc deux hommes, un couple et un chien. Les deux hommes, ce sont Morlac, un paysan décoré sur le champ de bataille, revenu de la guerre en héros, mais qui croupit dans la prison d'un petit village. Et puis, il y a Lantier, un commandant de l'armée chargé de statuer sur son cas. Tous les opposent. L'un a été envoyé sur le front de force, l'autre a choisi l'armée par idéalisme. Pourtant, les horreurs qu'ils ont tous deux traversées durant la Grande Guerre vont les réunir. Il y a aussi un couple, celui que formait le prisonnier Morlac avec Valentine, une jeune éleveuse de chèvres qui, avec la guerre, eh bien, a perdu le père de son enfant, qui n'est autre donc que le prisonnier. Au milieu de tout ça, un chien qui veille obstinément sur son maître, qui reste sous les verrous, aboyant du soir au matin. Alors ainsi se posent quelques questions. Si Morlac croupit en prison pour avoir déshonoré le drapeau, on ne sait quel acte il a vraiment commis. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était à la vue de tous un 14 juillet. De même, si on apprend qu'il a eu une histoire d'amour, on ne sait pas ce qui l'a contrarié, cette histoire. Le Collier Rouge n'est donc pas seulement un nouveau film sur la guerre après Cessez le feu, Au revoir là-haut et Les gardiennes, mais également un énième film sur une histoire d'amour contrariée, alors là, ici, par la guerre. Qu'on n'oublie pas non plus dans cette dramaturgie l'histoire de ce foutu chien qui pleure son maître.
Insulter la nation, c'est inacceptable. Je vais beaucoup trop donner à la nation.
On dirait qu'il s'obstine à vouloir être condamné.
Je
vous en supplie, monsieur. Dites-lui qu'il revienne, son fils et moi, on l'attend.
L'héroïsme, la bravoure, le patriotisme. Il y a encore des malheureux qui croient en ces conneries.
La justice est là pour protéger la société.
La protéger de qui? Qui est coupable? Qui est innocent?
Si condamne ce gars-là, il fait une grande injustice.
Vous savez de quoi on l'accuse?
Allez-y, fusillez-moi.
Feu!
Ça la guerre que les hommes montrent leur vraie nature. Tout s'est passé le 14 juillet 1919 sur la Grand Place.
Pour raconter cette histoire qui se déroule au présent dans un petit village où le temps alors semble s'être figé, parce qu'on voit souvent les mêmes images du café, de l'hôtel et puis des champs, eh bien Becker n'a d'autre choix que de construire des flashbacks. Et à mesure que le commandant, droit dans ses bottes, donc interprété par François Cluzet, fait des allers-retours entre le village et ses habitants et la prison, eh bien on apprend l'histoire de Morlaq, interprété par Nicolas Duvauchel, et avec lui l'absurdité de la guerre qui là se jouait alors sur le front oriental en Grèce contre les Bulgares, ce que je ne savais pas, ou que j'avais oublié. Malheureusement, faute de moyens ou de vision, mais sûrement les deux, hein, les scènes de tranchées apparaissent à tonnes et perdent de leur intensité. C'est un peu le problème de cette mise en scène qui distingue à peine les longs moments dans ce petit village du Berry, pendant un été écrasant de chaleur, et le champ de bataille poisseux et sanguinaire. Le plus intéressant aurait pu être le rapport de Valentine et Morlaq, le paysan qui va être initié aux idées grâce à l'amour et aux idées révolutionnaires socialistes grâce à la guerre, parce qu'on apprend aussi que sur ce front de l'Est, en fait, il y a une proximité entre l'armée française et l'armée russe. Et comme on est, ben voilà, enfin, pendant la Grande Guerre, il y a la Révolution russe, et bien les Russes contaminent, si je puis dire, les soldats français aux idées révolutionnaires. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le film, et ce qui est plutôt intéressant. Mais en fait, tout cela est survolé. Une citation de Rousseau tirée du contrat social par là, et puis un peu plus loin, et bien François Cluzet, le juge militaire, qui reformule un questionnement sur la justice, comme pour résumer le film, et ça sera tout. C'est d'ailleurs ce qu'on entend dans la bande-annonce. Hein, la justice, ah oui, mais c'est quoi? Enfin, voilà. Le collier rouge laisse planer un mystère, voudrait être épique. Après tout, les récits de guerre, eh bien, peuvent être captivants, mais ça ne décolle pas. Le ronron de ce long métrage le place au niveau d'un aimable téléfilm, sans que ce soit péjoratif d'ailleurs, hein, pour le téléfilm. La confrontation des deux acteurs que sont Duvauchel et Cluzet nous apparaît très loin du duo formé par Noiret et Galabru dans Le Juge et l'Assassin. Et je dis ça parce que c'est un film que Jean Becker a pu citer. Voilà. La vision de la guerre était beaucoup plus affirmée, radicale, hein, pour Cessez le feu, le film d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris qui était sorti il y a un peu plus d'un an. Notamment toutes les images de guerre avec un son vraiment appuyé. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment fort. Là, ici, franchement, il n'y a rien d'éclatant. Enfin, c'est à peu près sur la même ligne, ce film.
C'est du Becker, quoi.
C'est du Becker, effectivement. Et ça donne l'occasion, eh bien, de jouer un blind test spécial Jean Becker, qui a plutôt fait des films alors, grand public, voilà, des films populaires.
Alors c'est comme marrant ça qu'on parce qu'il a débuté au début des années 60 avec des films avec Belmondo, dont un nommé La Rocca, et pendant plus de 20 ans, ou presque 20 ans, il n'a rien fait. Mmh. Et il est revenu avec L'été meurtrier, avant de disparaître à nouveau et revenir à la fin des années 90.
Avec c'est d'autres films. Curieux. Et on va, eh bien, 5 extraits qu'on écoute, et il suffit de deviner les titres. On commence, premier extrait, et c'est très facile.
Mais l'argent ne fait pas le bonheur.
Bérangère, j'en étais sûr. Chaque fois qu'il y a une connerie à dire, elle est pour toi.
Quoi, c'est une bêtise de dire que l'argent fait pas le bonheur?
Non, c'est pas.
Franchement, Bérangère, qu'est-ce qui vaut mieux? Revenir des Seychelles en plein hiver, toute bronzée, et se promener au volant de sa petite mini, ou raser les murs du métro, morte de trouille, comme Rachida, la bonne de Clara, que ses enfants adorent? Parce que si elle se fait choper par la police sans ses papiers, on la renvoie dans son pays.
Non, mais je vois pas le rapport.
Ah, ça m'étonne pas. On va passer un contrat tous les deux, tu veux bien? Juste pour ce soir. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, eh ben, c'est de fermer ta gueule.
Non mais il est fou de me parler comme ça!
Alors, c'est facile.
C'était deux jours à tuer.
Avec Albert Dupontel, film de 2008. Et d'ailleurs, Jean Becker a de la chance parce qu'il adapte souvent ses films à partir de romans. Et là, c'était un roman de François Despenoux. Enfin, je dis ça parce que au moins, c'est bien écrit. Deuxième.
Ça pue ici, faut ouvrir.
Non. Attention au courant d'air.
C'est vrai, Pépé, faut prendre l'air.
Hey, ferme-lui la fenêtre. Il va attraper la mort, tu sais. Il va même pas jusqu'au lac l'après-midi. Il aime mieux faire sa sieste.
Ouais, il a raison, s'acharner. Il veut durer comme les petits lapins avec leur petite pile Duracell. Faut pas se faire péter le cœur à votre âge. Faut les regarder, les coins-coins. Faut leur donner du pain.
C'est Elisa. Et Vanessa Paradis n'a pas la même voix que dans le Charounas Bartas, d'ailleurs.
Non, mais elle a pas le même âge non plus.
Pas le même âge.
Allez, troisième extrait.
Qu'est-ce que vous pariez que je vous emmène en voyage un de ces jours?
Ah oui? Où ça?
Je sais pas, n'importe où.
D'accord. À Nice? Ou à Paris, peut-être? Dans une chambre de merde? Où vous pourrez me tringler tant que vous voudrez, parce que c'est ça que vous voulez, non? Dis-le qu'il faut trop parler.
C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dit?
Alors,
c'est donc l'été meurtrier, parce qu'on entend Adjani et Souchon.
Et oui. Et d'après un roman, encore une fois, celui de Sébastien Japrisot. Encore une adaptation de roman, quatrième extrait.
Vous voulez bien que je vous lise quelques lignes? Je crois qu'elles ont été écrites pour nous.
Volontiers, si c'est pas trop long.
Mais non. Écoutez. La liberté n'est pas oisiveté. C'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Comprenez-vous, ami?
Moi, j'ai compris qu'être libre, c'est comme on vit, nous.
Exactement. Nous sommes les derniers hommes libres!
Alors, où sont-ils, ces hommes libres? Ils sont dans les marais.
Ah, les enfants du marais.
Eh oui, les enfants des marais avec Jacques Villeray, Jacques Gamblin, André Dussolier, film de 99, dernier extrait.
Un drôle de gardien. Un ange gardien.
Gardien quand même. Pour moi, l'ennemi reste l'ennemi. Il peut bien y avoir une entourloupe.
C'est-à-dire?
Il fait ami-ami. On se méfie pas et on lâche le morceau.
Quel morceau? T'as un morceau à lâcher, toi. À part la pomme qu'il t'a donnée. Moi, j'ai simplement vu un brave type qui nous a fait rire et ça m'a fait du bien. Un pauvre gars comme nous qu'on a marre, qu'on peut plus de cette saloperie de guerre, c'est tout. Ouais.
Un grand succès public. Film de 2003, avec encore une fois Jacques Villeray, encore une fois André Dussolier, Thierry Dhermitte, Benoît Magimel, qui sont dans un trou avec un clown qui, un clown allemand qui vient leur faire la blague. Effroyable jardin. Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial Jean Becker. On termine vite fait avec un road movie lituanien.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Frost, gel en français, hein, un titre adéquat pour une œuvre opaque et assez glaciale en surface, même si derrière cette couche de froid se cache un film beaucoup plus humaniste qui ne se laisse pas apprivoiser de prime abord. Alors Sharounaz Bartas s'est fait connaître en France avec son second long métrage, Few of Us, en 96, puis The House l'année suivante, avec un casting pour le moins curieux puisqu'on y retrouvait Valeria Tedeschi Bruni, mais aussi Léo Scarrax qui a d'ailleurs écrit Bartas.
Il aimait beaucoup.
Claire Denis aussi. Claire Denis, puisque dans un film de Claire Denis, il apparaît aussi. Alors, ces films sont devenus, au fil des ans, d'ailleurs, plus confidentiels, à l'image du très intime Peace to Us, In Our Dreams, où Bartas filmait sa fille, sortie en 2015. Ce talentueux démiurge, véritable maître de la composition des plans, capable de suspendre le temps, alors revient avec un film plus accessible d'un point de vue narratif. La parole y circule beaucoup, mais tout aussi complexe à pénétrer d'un point de vue émotionnel. Alors Rokas et Inga, un couple de jeunes Lituaniens, n'ont pas l'air très épanouis d'ailleurs. Sont-ils ensemble? C'est un peu la question que l'on se pose au début du film. Ils pourraient être amis ou frères et sœurs, ces deux êtres qui ne s'étreignent jamais. Alors Rokas accepte une mission pour rendre service à un ami, conduire un van d'aide humanitaire depuis Vilnius jusqu'en Ukraine. Mais Rokas et Inga n'ont pas l'expérience du conflit, s'embarquent dans un road movie sans se douter ce qui va leur attendre. Plus ils avancent dans leur voyage périlleux et angoissant, plus ils s'enfoncent dans un monde de bruit et de fureur déchiré par la guerre civile entre pro-russes et séparatistes ukrainiens. Leur périple débute dans un hôtel à Kiev avec des journalistes internationaux qui évoquent la situation. Alors parmi eux, Vanessa Paradis, dans un très beau rôle, assez court, qui incarne une journaliste désenchantée. Elle annonce le désarroi du monde. Mais ce faux de parole assez inédit chez un cinéaste mutique comme Bartas reste théorique. Ce n'est pas la guerre, c'est juste un discours dans un lieu où circule encore le désir, un havre de paix protégé en somme. Alors les deux amants qui se cherchent malgré tout dans ce chaos ne savent pas vraiment ce qu'ils font là, juste un concours de circonstances au fond. Mais cette expérience va aussi les rapprocher. Le désespoir réel de Bartas est teinté d'humanité, même si cette humanité reste cachée, jamais exposée à l'écran, toujours dissimulée sous la surface. Les visages lisses, presque sans émotion, de Rokas et Inga, auxquels deux très beaux acteurs, je parle physiquement, prêtent leurs traits, traduisent cette étrangeté, cette froideur de surface qui ne cherche pas qu'à se briser. Alors, si l'ennui nous guette à plusieurs reprises, notamment lors des séquences dans l'hôtel, trop longues, trop bavardes aussi, malgré leur intérêt a posteriori, Frost est parsemé de grands moments de cinéma, tel ce monologue d'un soldat ukrainien filmé de très près qui s'interroge sur l'absurdité de la guerre, sur le choix irrationnel de tuer sa mère ou son père. La quête des deux amants embarqués malgré eux dans un combat qu'ils ignoraient se clôt par un magnifique plan dont je ne dévoilerai pas, hein, puisque ce serait quand même de dire la fin. Alors, qui d'une beauté visuelle foudroyante, un souffle romanesque traverse cette œuvre mélancolique qui, au fond, raconte l'histoire d'un couple qui retrouve l'étincelle de l'amour en se confrontant à l'horreur. Le regard de Bartas est impitoyable, mais il finit in extremis par nous émouvoir avec un film qui mérite une attention particulière de la part du spectateur. Le prix à payer pour accéder à une certaine beauté et une certaine compréhension aussi.
Et en tout cas, si on veut au moins une réflexion sur l'horreur de la guerre, bah, vaut mieux,
Regarder ce film.
Le Shaounaz Bartas, voilà. Que de Jean Becker.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Manu, la semaine prochaine, tu auras vu le Steven Spielberg.
Ready Player One, oui.
Et ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test sur le grand maître. Moi, j'aurais vu Gaston Lagaffe. Marine aura vu Red Sparrow. Et puis, on aura vu d'autres films dont on vous parlera la semaine prochaine.